Je crois en la résurrection de la chair à la vie éternelle. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Et nous pourrons méditer dans nos prières à chacun ce chapitre 25 de Matthieu qui parle justement du jugement de chacun au moment de sa mort sur tout ce qu'il a fait de bien ou pas, ou ce qu'il aurait pu faire qu'il n'a pas fait, l'omission, et que le Seigneur, en fait, s'identifie aux personnes que nous rencontrons, que nous servons. Ce chapitre 25, le Saint-Père en a parlé, le pape François, comme un examen de conscience salutaire pour lui-même, quand il a parlé de la miséricorde, il y a plus d'un an, à ses prêtres. Il leur a dit, de temps en temps, je médite ce chapitre, et ça me fait beaucoup de bien. Voilà. Le sens de l'examen de conscience chez le Saint-Père, qui est un jésuite, est très marqué. Alors nous allons voir justement aujourd'hui plusieurs aspects importants sur ce qu'on appelle les fins dernières, qui sont un enseignement qui a été très occulté ces dernières décennies. Voilà, un peu en mode superstitieux, ou du moins c'est relayé, et souvent c'est mal compris, et souvent c'est caricatural. Beaucoup de choses nous font du mal dans notre approche des fins dernières, qui sont un peu des, des préjugés naïfs. Si Dieu est bon, il permettra jamais que personne n'aille pas vers lui à la fin, parce qu'il est trop bon. Ça, c'est une approche qui est en fait un préjugé. Et on a derrière ça tout ce que j'appelle l'évangile selon Paul Naref, on ira tous au paradis, qui a marqué beaucoup, qui a façonné notre manière de voir les choses. Il y a aussi une autre manière qui a façonné notre approche des fins dernières aujourd'hui. Enfin, il y en a plusieurs, je ne dis pas tous les éléments, mais j'en dis certains. C'est que nous sommes, et nous avons eu raison de le faire, et il faut continuer à le faire, et nous devons encore plus le faire, sans doute, s'investir dans le champ de faire advenir ici-bas le royaume de Dieu, c'est-à-dire l'engagement social auprès des plus petits, des pauvres. L'engagement, le témoignage de chacun dans son métier, dans sa vie de famille, dans son travail. Voilà, toute cette dimension de charité, de solidarité, de faire venir, de travailler à la création, tout ça est bon. Mais le risque, c'est que nous pouvons atrophier la finalité de ce pourquoi nous le faisons. Et cette finalité, ce n'est pas pour ici-bas, mais c'est pour le ciel. Et donc, ce que nous avons pu peut-être oublier, c'est la destinée finale de l'homme, le ciel, le choix du ciel. Et que tous ces actes ici-bas le préparaient ou pas au ciel. C'est la grande vertu d'espérance, c'est-à-dire nous sommes orientés vers notre fin. Et Dieu va nous aider va pourvoir, à travers les événements, sa grâce qu'il nous donne, douloureux ou pas, à nous aider à arriver à notre fin. Or souvent, la vertu d'espérance a été un peu atrophiée, il reste la charité, la foi, Dieu est bon, et nous aimons avec sa grâce, mais nous ne sommes pas orientés vers la fin. Le discours des fins dernières n'est plus premier, n'est plus directif, vous voyez, comme si on était amputé de la finalité. Et donc on vit ici-bas. Et donc du coup, nous vivons un peu un christianisme désorienté. Désorienté. Notre évêque l'a redit dans sa lettre pastorale, par exemple, la place de la vertu d'espérance là-dessus. Et donc on ne parle plus des fins dernières. Or, il faut en reparler parce que c'est le but de la vie, voyez-vous. C'est comme si on passe un bac. Toute notre vie, c'est une préparation pour passer cet examen. Donc il faut parler de cet examen. Quel est le but de la vie? Il faut s'y préparer. C'est très important. Alors on va voir ce que c'est que les fins dernières. Nous émettons derrière les fins dernières le jugement personnel de chacun. J'insiste le mot jugement personnel de chacun. Nous mettons derrière les fins dernières le purgatoire, le ciel, l'enfer, le jugement final, le retour du Christ, la Jérusalem céleste. Toutes ces notions sont intégrées dans les fins dernières. Elles sont dans l'Écriture. Elles sont dans l'Écriture, et elles sont aussi développées par la tradition théologique, par les conciles, et par les mystiques reconnus par l'Église, les docteurs, de tout temps. Donc c'est très important de prendre cela au sérieux. Ça implique, je vois que parmi vous, accompagnent les personnes en deuil, voilà, d'où sont sensibles aux plus pauvres, et bien vous voyez, cette notion des fins dernières doit nous dynamiser dans notre vie chrétienne et notre pastorale. Oui, c'est très important de la prendre au sérieux. Alors, on va y aller petit à petit. Tout d'abord, Si le Christ est mort, c'est pas en vain. Si le Christ a donné sa vie pour nous sauver, c'est qu'effectivement la vie chrétienne, la vie d'un homme ou d'une femme, a une valeur très importante pour Dieu. Nous avons, comme dit l'Écriture, « Tu as du prix à mes yeux et je t'aime ». Donc Dieu aime l'homme, parce qu'il l'a créé, il l'aime. Et l'Église nous enseigne que dès le début du catéchisme, mais c'est dès le début de l'Écriture, mais dans le premier article du catéchisme, il nous est dit « Dieu a librement créé l'homme pour le faire participer à sa vie bienheureuse ». Donc la finalité de l'homme, c'est de vivre dans la Trinité. Nous avons le livre du Lévitique et le premier épître de saint Pierre, chapitre 1, verset 16, qui nous dit « Soyez saints, car je suis saint ». Le but de l'homme, c'est d'entrer dans la Trinité et de devenir un saint. Et toute cette vie le prépare. Mais nous savons que la rupture due au péché a entraîné en nous un désordre important. Nous ne sommes plus maîtres de nous-mêmes, nos passions nous dominent, le corps maîtrise sur l'intelligence, et l'intelligence, elle est désorientée, elle ne suit pas toujours le spirituel. Il en est de même dans nos relations entre nous, il en est de même dans notre relation sur Dieu, où nous pouvons avoir peur de Dieu, des fausses images de Dieu, ou ne pas faire la volonté de Dieu. Donc l'homme devenu pécheur peut se désorienter et perdre son salut. Ce n'est pas un vain mot, il faut retrouver l'urgence de penser que le salut est un enjeu capital pour chaque personne. L'expression « faire son salut en son temps » est peut-être usée, mais elle disait quelque chose de vrai. Et donc, le Christ qui prend ça au sérieux, qui voit l'homme pécheur, le sauve. Il le sauve et il paye de sa vie, il payera jusqu'au bout, mais c'est pour dire qu'il prend ça au sérieux. Il y a une question de vie ou de mort à ne pas être sauvé. Ce n'est pas du baratin. Par exemple, des écrivains, des récents théologiens disaient « Ce n'est pas pour rien que Dieu parle de l'enfer ou du salut de l'âme. Ce n'est pas simplement comme un père fouettard pour faire un peu peur pour que la personne se remette dans les rangs. » Non, que c'est parce que c'est une conséquence réelle possible. Donc, le Seigneur prend ça au sérieux et il encaisse pour nous sauver. Ça, c'est la passion du Christ. Donc, quand nous voyons la passion, nous voyons le drame qui est en jeu. Et il est bon de méditer la passion du Christ. Normalement, il faut le tenir, normalement, nous pouvons devenir saints à notre mort. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut que tous les hommes soient saints. Et comment on devient saint? On devient saint en faisant la volonté de Dieu, non pas la nôtre, mais celle de Dieu, qui nous est connue objectivement à travers les préceptes de l'Église, et aussi subjectivement parce que Dieu, à travers l'émotion du Saint-Esprit, nos vocations réciproques, et un accompagnement et un cheminement au cas par cas pour chacun, va l'amener à une sainteté personnalisée, proportionnée à ce qu'elle peut donner, mais une vraie sainteté. Et donc nous voyons que chaque petit oui à la volonté de Dieu, qui coûtent ou qui sont faciles, qui peuvent être très durs ou pas très durs, ça dépend des petits oui. À chacun il en donne des petits oui différents, nous prépare à dire un grand oui au moment de notre mort. Donc nous voyons que la vie chrétienne, la vie humaine, n'est pas une vie, j'allais dire, pour jouer, et puis après de toute façon on est racheté ou pas. Elle conditionne mon oui final. C'est très sérieux, c'est pour ça que l'Église prie pour les agonisants, parce que nous savons qu'à ce moment-là peuvent très bien arriver des cas où la personne ne va pas pouvoir dire oui. Et c'est grave. Ah oui, c'est capital, c'est irrémédiable. Donc nous prions pour que le cœur endurci puisse être ramolli et accueillir la grâce. Et quelqu'un qui a fait des petits oui toute sa vie, quelque part s'est préparé à dire oui, un grand oui. Quelqu'un qui fait des petits non, et des grands non même, aura plus de mal à dire un vrai oui. C'est comme si vous montez une montagne, vous êtes sur petit pignon, ça pédale, puis vous passez un autre pignon, un autre plateau, c'est de plus en plus facile. Mais si vous êtes toujours sur rien du tout, vous passez un grand plateau, vous n'arrivez pas à avancer. Donc il faut avoir conscience que notre responsabilité va conditionner notre oui. De pas de manière absolue, parce que la grâce de Dieu peut agir, mais ce serait faux de dire que nous sommes un pantin et que Dieu fait tout. Notre responsabilité peut nous amener à nous paralyser. Et donc Dieu prend ça au sérieux. Cette capacité à dire des oui, à choisir la sainteté qui va en croissance dans la vie chrétienne, c'est ça le but de la vie. Soyez saint car je suis saint. Ça peut être très court dans la durée, 10 ans, 20 ans, 24 ans pour Thérèse, ou très long. La grâce est étagée selon le parcours que Dieu veut pour chacun, qui intègre notre liberté et nos petits choix de oui. En aucun cas, il faut se comparer, parce que Dieu donne ce qui est bon à chacun. Il faut s'en réjouir. Il faut vraiment s'en réjouir. Mais vous voyez la place de la responsabilité capitale de chacun à choisir le oui, définitivement, et en s'y préparant dès ici-bas. Donc j'allais dire, ça nous fait enlever le côté feignant qu'on peut tous avoir, et moi le premier, « Oh ben demain, Dieu m'aidera bien, mais peut-être que je n'irai pas demain. » Et nous avons cette parabole de l'Évangile qui dit « Mais demain, on te reprendra ta vie. » C'est très sérieux. Il faut le prendre au sérieux. Donc vous voyez, la responsabilité est capitale. Et nous voyons quelque part où, à notre époque, cet Évangile de Paul Naref, que je disais, a bien abîmé la responsabilité de l'homme. On a fait un peu un pantin. Or, c'est pas ça dans le choix d'amour de Dieu, puisque quand Dieu crée l'homme libre, par amour, il lui laisse la liberté de le choisir ou pas. Il ne peut pas le forcer, sinon nous serions des pantins et il ne nous aimerait pas. Donc on va voir que cette liberté a pour conséquence l'accueil ou le refus de Dieu. Quand toute personne meurt, elle se retrouve face à Dieu. C'est un peu ce qui est dit dans l'Évangile en Matthieu 25. La personne voit le Christ. Et c'est ce qu'on appelle le jugement personnel. Nous ne savons pas exactement comment ça se passe juste après la mort ou quelques instants après, mais il y a ce jugement personnel qui est un mot, j'emploie le mot jugement. C'est aussi des mots qui font peur, on ne peut pas parler, mais Dieu est juste. Et au-delà de toute justice, c'est vraiment juste, mais dans le bon sens du terme, parce qu'il est vrai. Donc Dieu est lumière. Jean 8, 12 et Jean prologue, on voit que la lumière est venue dans le monde et elle a brillé même dans les ténèbres. Eh bien Dieu éclaire la vie de l'homme, tout son parcours, il l'éclaire. Et sa lumière d'amour et de vérité lui montre les points réussis et les points ratés. Jean de la Croix dira, au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. Lui montre sa vie. Donc, il n'est pas d'abord un juge, il est d'abord quelqu'un qui éclaire. Mais sa lumière fait la vérité. Elle montre ce qui est bon ou ce qui est mauvais. Sans fausse excuse, sans condamnation, mais en vérité. Et la personne est libre ou pas à ce moment-là, selon les petits oui qu'ils l'ont préparé. Implicitement, si elle n'a pas la foi chrétienne, explicitement si elle a la foi chrétienne, à choisir Jésus. Elle peut dire, oui, j'ai besoin d'être sauvée, et je t'accueille. Et Jésus lui propose, non, je ne veux pas être sauvée, et je ne t'accueille pas. Vous voyez, c'est important qu'on soit bouddhiste, musulman, athée, agnostique, chrétien, protestant, on se retrouvera tous face à Jésus. C'est l'unique sauveur. Et j'allais dire, beaucoup seront étonnés d'arriver devant Jésus en croyant à Allah, en croyant à Bouddha. C'est-à-dire, en fait, je t'ai cherché sans le savoir, même si je ne te connaissais pas bien, j'avais des fausses idées sur toi, je te cherchais d'une conscience dont je pensais la plus droite possible, et en fait, c'est toi la source. Vous voyez ? C'est ce que dit l'Église, Jésus unique sauveur, unique médiateur. Il n'y en a pas d'autre. Mais pour nous, dans ce jugement personnel, nous chrétiens, nous avons des éléments de connaissance supérieurs aux autres sur qui est la source de la vie, Jésus-Christ. Et donc, quelque part, notre jugement sera plus pertinent, plus précis et quelque part plus sévère si nous nous trompons, si nous ne le choisissons pas. Parce que nous connaissons vraiment qui il est. Vous voyez ? C'est normal. À celui qui a beaucoup reçu, il sera demandé davantage, dès l'Écriture encore une fois. Ce qui est tout à fait juste, c'est la pure justice. Donc, dans cette lumière-là, le jugement personnel, l'homme voit sa vie. Voit les lieux d'amour, de fidélité, de réponse, de décentrement qu'il a pu donner vers Dieu, vers les autres. Voit aussi les lâchetés, les omissions. Et Dieu lui met cette lumière pour faire la vérité. Amour et vérité se rencontrent. Il n'y a pas d'amour sans vérité, il n'y a pas de vérité qui ne suscite pas l'amour ou la compassion. C'est le psaume 84. Amour et vérité se rencontrent. Dans cette lumière d'amour et de vérité, Dieu lui montre sa vie et lui propose de le suivre, s'il le veut. Mais ces petits oui en amont ont conditionné cette capacité à dire oui ou pas maintenant. Vous voyez ? Parce que ça demande beaucoup d'humilité à quelqu'un qui était toujours dans la négation de Dieu, dans la remise en cause de Dieu, d'avoir fondé sa vie là-dessus, de se dire maintenant que je te choisis. Vous voyez ? Ça demande beaucoup d'humilité et c'est très très dur. Donc il faut prier pour la conversion des gens, prier pour la conversion des pécheurs durs, comme a fait Thérèse pour Pranzini. Prier très fort, c'est pas de la bondieuserie, c'est nécessaire, parce que c'est vital. Donc à ce moment-là, si la personne l'accueille, qu'elle voit en lumière, c'est comme si vous voyez la lumière du vitrail qui rentre dans la pièce, elle éclaire toute la pièce, elle voit ce qui est en ordre, ce qui est en poussière ou mal rangé. La lumière de Dieu nous éclaire et voit nos tâches, notre péché ou pas. Si notre chemin ici-bas de petits oui et d'avancer dans la grâce de Dieu, de don de nous-mêmes, nous a préparé à la sainteté, il est possible qu'il y a des âmes qui vont directement avec Dieu. Dieu les accueille dans son ciel. Elles sont saintes. Peut-être pas canonisées par l'Église, mais elles sont bienheureuses et saintes. Il y a plein de saints qui ne sont pas canonisés, c'est ce que nous fêtons à la Toussaint, mais ils sont aussi des saints. Si l'âme qui rentre en lumière, dans la lumière divine, voit son histoire et voit qu'il y a des manquements réels, et pour beaucoup d'entre nous, ça sera peut-être le cas, le Seigneur va continuer la purification dans sa lumière, qui est purifiante. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée, ça continue. Et l'Église nous parle du purgatoire, mais c'est aussi des fondements scripturaires, puisque dans l'Ancien Testament, nous en parlons à un moment donné de la prière des morts, et dans le Nouveau Testament, dans les épîtres, je crois, pétriniens, il faudra vérifier, on parle du feu purificateur. Donc cette idée-là du purgatoire, c'est-à-dire c'est l'âme et la doctrine de l'Église, après s'est fondée, et elle a été confirmée par la mystique, cette expérience-là. Sœur Faustine, qui sera dans l'année de la miséricorde, fait des expériences pareilles. À Fatima, on fait aussi des expériences de l'enfer et du purgatoire. Vous voyez, donc, c'est confirmé, et elle s'enracine bibliquement, cette doctrine. Le purgatoire, c'est quoi? C'est l'être humain ne peut plus par lui-même se sanctifier. Alors, je dis bien, l'être humain ne peut plus par lui-même se sanctifier, c'est Dieu qui sanctifie, mais comme vous le commencez à le sentir, l'homme est aussi collaborateur et responsable. Or, au purgatoire, il ne peut plus agir, il n'est que passif. Donc, il ne peut plus par lui-même se sanctifier. On va parler des mérites, et il ne peut plus par lui-même, en quelque part, mériter salut. Hein? Et donc il est en mode passif. Et Dieu le purifie pour un temps qui est au-delà du temps, mais qui est réel, un temps de purification qui se fait dans l'amour et dans la douleur. Ce temps-là peut être aidé, comme la personne ne peut plus par elle-même se sanctifier, par les autres. C'est la fameuse communion des saints. Les saints du ciel peuvent intercéder pour l'âme au purgatoire. Les personnes ici-bas peuvent intercéder pour la personne au purgatoire. C'est pour ça que nous faisons dire des messes. Et qu'il est capital de dire des messes, vous voyez, parce qu'on n'enseigne pas la doctrine des fins dernières. Souvent on dit la personne est morte, elle est au ciel. Ben non, elle est très probablement au purgatoire. Et donc il faut prier pour cette âme. Et le sacrifice de la messe étant la prière la plus forte, parce que c'est la prière du sang versé de Jésus qui sauve les vivants et les morts, aussi les âmes du purgatoire. Et donc c'est un lieu de purification. Ce lieu est un lieu d'abord de joie. On en parle comme si c'était une espèce de damnation impossible. C'est d'abord un lieu d'espérance et de joie, parce que quand on est au purgatoire, on sait qu'on accueille le salut de Jésus, qu'on a dit oui à la purification, qu'on a dit oui à ce que le Seigneur veut nous sauver, et que le Seigneur vraiment nous a pris en main et dit « On continue le travail, je suis avec toi ». Donc c'est un vrai oui. C'est une vraie espérance qu'on va au ciel. Et on est toujours dans l'Église. L'Église ici-bas, c'est l'Église pérégrinante. L'Église au ciel, c'est l'Église glorieuse. Et l'Église au purgatoire, c'est l'Église souffrante, mais elle est déjà, c'est l'Église. Vous voyez, on fait partie de l'Église. Mais c'est aussi douloureux, et c'est beaucoup plus douloureux, nous disent les saints, qu'ici-bas, que toute forme de douleur. Parce que quelque part, vous voyez, c'est comme un alliage qui va être en fusion, nous dirait Catherine de Sienne. Catherine de Sienne ou Catherine de Gênes, je crois que c'est Catherine de Gênes dans son traité du purgatoire, parle de ça comme une âme, comme un alliage en fusion, qui est chauffé à fond et dont les scories vont ressortir. Vous voyez, donc c'est chaud. Ça purifie l'âme. Et ce feu purificateur est douloureux selon les vices et les péchés de chacun. Et pour extirper tout ça, ça peut prendre un peu de temps et c'est plus douloureux que le petit effort ou le petit jeûne qu'on a fait ici-bas. Vous voyez ? Mais c'est absolument nécessaire parce qu'on ne peut pas rentrer dans la sainteté de Dieu sans être saint. Rien ne peut corrompre l'eau limpide de Dieu, le feu parfait de Dieu, la lumière parfaite. Nous devons être comme lui. Et pour être comme lui, lui vient en nous et nous purifie. Et son amour est à la fois, nous soutient, l'espérance qu'on va y aller, et quelque part on y avance déjà, et en même temps il nous purifie, et cette purification est douloureuse. Et Dieu nous soutient dans cette expérience-là, parce que s'il ne nous soutenait pas, c'est possible qu'on serait désintégré. Parce que c'est quand même sacrément purifiant. Donc, c'est à la fois un signe d'espérance, et en même temps on ne veut pas y rester trop longtemps. Et en même temps, c'est l'âme qui choisit d'elle-même, nous disent les saints, d'aller au purgatoire. En voyant son Seigneur qui lui dit « Veux-tu me suivre ?» et en se voyant elle-même, elle accepte elle-même de choisir le purgatoire. Parce qu'elle en voit son salut, son enjeu. Elle sait en vérité où est son bien. Vous voyez, c'est quand même étonnant. Mais c'est vrai. Et donc elle comprend à ce moment-là que tous les efforts qu'elle aurait pu faire ici-bas auraient dû être faits et lui auraient évité cela. Donc il nous faut méditer sur les fins des lumières pour vraiment nous réorienter dans le jour, au jour après jour sur notre but. Vous voyez. Souvent, nous ne méditons pas les fins dernières, et quelque part, il y a une sorte de paresse spirituelle, de léthargie. Ça, c'est possible. On va parler du ciel après. Mais l'âme peut très bien refuser l'accueil du Seigneur au jugement personnel. Et à ce moment-là, le Seigneur ne peut pas, n'a pas d'emprise sur elle. Et ça va être la géhenne, l'enfer. L'enfer, encore une fois, on n'en parle plus. Alors certainement, on a des images en mode barbecue, en mode chaudron. Donc ça fait un peu caricatural. Avec le petit démon qui a la fourchette, qui pique, et voilà qui nous met dedans. Ok, c'est caricatural. Mais la valeur de ça, c'est que ça excitait chaque chrétien à choisir le salut. Et en fait, Saint Jean-Paul II rappelait dans une catéchèse que l'homme ne doit jamais oublier cette sainte crainte de l'enfer, parce qu'elle est salutaire. Vous voyez, c'est ce qu'avait rappelé un pape au XXe siècle, le péché de cette époque, c'est l'oubli du péché. Parce que sans culpabilité, on ne peut pas choisir la finalité. On est en léthargie. Donc c'est nécessaire, ça. Ça secoue vraiment. Et d'ailleurs, sur Faustine encore et à Fatima, on rappelle ça, comme un électrochoc. Comme a rappelé le pape François récemment aux mafieux en disant « Si vous ne vous convertissez pas, les amis, vous finirez en enfer. » Donc il y a un vrai enjeu d'avoir un électrochoc. Dieu n'a pas voulu l'enfer. Dieu n'est pas sadique. Dieu n'est pas sadique. Dieu ne veut pas brûler les gens. D'ailleurs, on ne brûle pas en enfer vraiment. Mais pourquoi Dieu permet ça? Parce que Dieu, s'il nous a créés libres, il permet qu'on ne le choisisse pas. C'est normal. Dieu ne nous fait pas des pantins. Si tu me choisis ou pas, mais finalement je te prends quand même. Non, si tu ne me choisis pas, je ne te prends pas. Et on a vu que notre choix est conditionné par les petits oui ou non que nous faisons. Donc une importance. Cet enfer, c'est le lieu de la non-présence de Dieu, de la non-présence de la grâce de Dieu. C'est-à-dire que l'homme qui est fait intérieurement, comme tout ange, pour le bien, le vrai, le beau, qui est ordonné à ça, qu'il le connaisse ou pas, intérieurement, il est désireux de ça, c'est son dynamique intérieure, son dynamisme intérieur. Mais quelque part, dans l'enfer, ce dynamisme-là n'est pas assouvi. Il a toujours cette faim et il n'en voit pas l'aliment qui va combler cette faim, parce qu'il a refusé l'aliment qui est Dieu. Donc quelque part, il est toujours en recherche, et pour l'éternité. Thérèse d'Avila méditait beaucoup sur ça, et pour l'éternité. Et pourtant, il n'a pas la faim de ça. Et donc on voit que, quelque part, ils sont livrés à eux-mêmes, ces âmes-là sont livrées à elles-mêmes, et sont dans une profonde tristesse, une profonde haine d'elles-mêmes, et haine des autres. Parce qu'il n'y a pas une solidarité entre pécheurs et l'enfer. Alors finalement, on n'a pas eu ça, les gars, mais on va faire une bonne petite réunion quand même. Non, il y a un vrai isolement. Le péché isole chaque homme. On n'est jamais solidaire dans le péché. On est solidaire, on a de la compassion pour le pécheur, mais ce n'est pas le péché qui fait qu'on est solidaire. Ça, au contraire, ça nous désolidarise. Donc, ils ne sont pas solidaires en enfer. Ils sont désolidarisés complètement. C'est très individualiste. Et c'est très souffrant. Et on n'a pas la fin de pourquoi on tant que notre nature voudrait aller. C'est une vraie frustration permanente. Et une vraie souffrance. Alors, voyez, l'homme ne le choisit que librement. Parce qu'il choisit l'absence de Dieu. Dieu laisse les personnes créées en enfer, comme les anges, comme les démons. Les démons qui sont en enfer, c'est les anges qui ont refusé Dieu. Et Satan en est leur chef. C'est-à-dire qu'ils sont faits pour le bien, mais ils ont refusé le bien. Et ceux qui étaient à porter la lumière, comme Lucifer, c'est-à-dire le porte-lumière, se sont retrouvés en anges des ténèbres. Ils se sont préférés leur propre amour, leur propre ego à Dieu. Et donc ça s'est grevé de l'intérieur alors qu'ils avaient des potentiels incroyables. Et ça s'est fait avant même que l'homme choisisse. L'homme soit créé, il y a eu un choix entre le ciel. On ne sait pas quand ça s'est fait, mais au ciel, un choix entre les anges s'est fait, entre ceux qui ont voulu choisir Dieu ou pas. Dieu les a laissés libres. Et il y en a qui n'ont pas choisi. Et donc ces démons, Satan, et peut-être des âmes pécheresses, d'hommes et de femmes, sont vraiment dans un état irrémédiable, définitif, sans la grâce. Mais Dieu leur donne encore l'existence. Vous voyez, Dieu ne les a pas détruits, comme remis au néant. Il a créé sa créature, il l'aime toujours, il laisse Satan exister, les démons exister et les âmes pécheresses exister. Mais il ne les soutient plus de la grâce. Il n'y a plus le lien de charité. Il n'y a pas la proximité de Dieu. Il n'y a pas le contact avec Dieu. C'est coupé définitif. On expérimente quelque chose de cet ordre-là, plus on affine sa vie spirituelle dans ce qui est le péché mortel, qui sépare de Dieu. Mais là, c'est absolument définitif. Vous voyez, nous sommes des créatures plus faibles que les anges, notre choix n'est pas instantané, il est progressif jusqu'au choix final de notre mort, et Dieu nous donne un temps de conversion qui est notre pèlerinage terrestre. Vous voyez, mais pour les anges, ça s'est fait irrémédiablement, non pas parce que c'est injuste, c'est parce que la connaissance angélique est une connaissance instantanée, qui ne fonctionne pas sur la déclinaison de concepts. Vous voyez, ce n'est pas discursif. L'ange connaît instantanément. Donc il a eu sa propre justice à lui. Dieu a été parfaitement juste. Vous voyez. Donc vous voyez, ça c'est les finalités. Il faut méditer l'enfer comme une conséquence possible de notre péché, de notre refus de Dieu, comme, j'allais dire, le terrible malheur. Et en même temps, il nous faut prendre au sérieux que Dieu nous invite dès ici-bas à choisir le bien. Alors, j'insiste là-dessus pour exciter notre envie de ne pas être paresseux. Mais si nous en restions là, quelque part, tout ne revient pas de nous-mêmes, et beaucoup d'entre nous pourraient se sentir, comment dire, pris d'un scrupule qui est déshumanisant jusqu'à avoir une sorte de terreur dès ici-bas. Du genre, oh, c'est terrible, on ne va pas y arriver. Quoi. Or, la vertu d'espérance, qui nous oriente vers la fin, nous dit que Dieu va nous donner aussi ce qui est bon pour nous. Donc l'Église n'a jamais prétendu qu'il y a des âmes en enfer. Elle peut penser qu'il y a des âmes en enfer. Dans des apparitions personnelles, on peut dire ça. Mais elle maintient que nous devons espérer contre toute espérance pour que chacun aille au ciel. Parce que nous devons penser jusqu'au bout que Dieu voudra sauver tout le monde. Donc du côté de Dieu, Dieu veut mettre tous les moyens pour sauver les âmes. L'enjeu, ce n'est pas du côté de Dieu, c'est de notre côté de répondre et de faire le travail. Mais du côté de Dieu, nous devons désespérer pour personne. Il en est de même pour ce cas où, à l'époque du curé d'Ars, un jeune homme se suicide, saute du lac, se suicide, et la mère, je crois que c'est la mère complètement, vraiment désespérée, va voir le curé d'Ars et dit, ben voilà, qu'est-ce qui va devenir ? Puis c'est grave, et puis on prenait au sérieux le suicide à l'époque, comme aussi quelque chose où on tue sa propre vie, c'est un péché grave vis-à-vis de l'auteur de la vie qui est Dieu. Et le curé d'Ars a dit, oui, mais entre le moment du pont et en bas, il a eu le temps de se convertir. Donc, vous voyez, Dieu peut toujours trouver le moment opportun pour aider. Donc notre responsabilité est première, mais nous ne devons jamais oublier que Dieu pourvoit. Du côté de Dieu, Dieu va pourvoir et qu'il nous aidera toujours. Et donc si quelqu'un est pris de désespérance vis-à-vis de lui-même, c'est que sa vertu d'espérance n'est pas assez forte et qu'il s'est trop auto-centré. Je peux être un grand pécheur, mais Dieu va m'aider. Et je veux m'en sortir. Et juste ce « je veux m'en sortir », c'est déjà un petit oui de démarrage. Et voyez, donc c'est très important de prendre ça au sérieux, parce que certains méditent l'enfer, et il faut le faire. Et je dis qu'il faut le refaire, parce qu'on l'oublie, les fins dernières, mais pas que l'enfer, le ciel aussi, on va voir, et tout ça. Mais quelque part se sentent, comment dire, accusés d'une manière disproportionnée, vivent dans la terreur, une angoisse perpétuelle. Certains saints vivaient dans une angoisse, mais c'est des états spirituels d'une autre nature que l'angoissé de base, comme vous et moi. L'angoissé de base, c'est, j'allais dire, c'est un mauvais équilibre psycho-spirituel. Pour équilibrer ça, Dieu est bon et père. Il pourvoit mes besoins et il va m'aider. Il faut le tenir. Et nous devons faire comme le Christ. Père, entre tes mains, je remets ma vie. Et je fais confiance. Et cette volonté d'abandon, c'est concret, c'est pas paresseux, c'est je m'engage à te suivre et je vais essayer de te demander les moyens pour y arriver. Et donc j'accueille les croix ou les non-croix dans ma vie parce qu'elles sont bonnes pour mon salut. Vous voyez ? C'est exactement. Christ fait pareil. Entre tes mains, je remets ma vie. Ça, c'est important. Parce qu'on peut très bien dire, mais Dieu va m'aider, mais je n'ai jamais remis entre ses mains ma vie. Donc on n'est pas aussi dans une logique de confiance. Voilà pour l'enfer, on reviendra sur le purgatoire, le ciel. Donc vous voyez, quand on parle du salut de l'homme, retenez cette phrase de saint Augustin, « Dieu t'a créé sans toi, il ne te sauvera pas sans toi. » Dieu nous a créés gratuitement, il nous aime, mais il veut que nous participions à notre salut. C'est la doctrine catholique des mérites. Ce n'est pas premier, c'est la seule foi qui sauve. Mais nous ne sommes pas des pantins, nous pouvons y participer. Et saint Jacques le dit, « Où est ta foi si elle n'agit pas ?» On y participe. Et Dieu prend en compte cette participation, la traite au sérieux. Le ciel, j'ai dit, on y va quand on est au purgatoire, après qu'on a été purifié, ou directement quand on est saint. Et quand on est au ciel, on voit Dieu, et c'est notre bonheur. Et ce bonheur-là, c'est ce qu'on appelle la vision béatifique, dans la lumière de gloire, lumen gloriae. C'est-à-dire, c'est ça les bienheureux, c'est ceux qui voient Dieu et ça les comble. C'est l'acte d'adoration par excellence. On n'imagine pas que cette vision béatifique peut nous combler toute une vie. Mais c'est vrai. Elle peut nous combler pour la vie éternelle. On fera certainement des choses, on ne sera pas en mode statue comme ça, mais il y a quand même le fait que voir Dieu va nous saisir de manière très forte. Que Dieu est tellement beau, vrai, bon, une puissance créatrice, que le voir va être extraordinaire. Thérèse d'Avila, à nouveau, avait cette forte parole. Elle est sortie de sa vie fortifiée d'Avila. Elle est allée droit vers les morts, mais on l'a arrêtée avant qu'elle y aille, quand elle était toute enfant. Elle avait dit « Je veux mourir, parce que je veux voir Dieu. Parce que voir Dieu, c'est mon bonheur. » Voir Dieu. Et cette vision béatifique nous rendra heureux, comblera chacun d'entre nous. Nous ne sommes pas faits pour avoir, dans les fins dernières, on parle aussi de la résurrection de la chair. Nous ne sommes pas faits pour être simplement une âme. Au ciel, il y a deux personnes qui ont un corps et une âme. Il y en a un qui est Dieu, et l'autre c'est un être humain, simplement. Il y en a un qui est Dieu et être humain, c'est Jésus. Depuis qu'il est incarné, il a un corps d'homme, une âme d'homme, et il est Dieu. C'est ce que nous retrouvons dans le Saint-Sacrement, on dit son corps, son âme et sa divinité. Il est comme ça au ciel. Et puis on a la Vierge Marie, qui avec son âme humaine et son corps humain. Mais tous les autres saints et bienheureux, il n'y a qu'une âme. Parce que le corps, il est désintégré, ou il est en poussière, ou il va le devenir. Or, un être humain n'est pas fait pour être simplement corps. Et là, c'est très important de croire en la résurrection de la chair, puisque les dernières statistiques disaient que 50% des catholiques, chrétiens en général, n'y croient pas. Or, c'est quand même le fondement de notre foi. Si le Christ n'est pas ressuscité, dit Paul, vaine est notre foi. Vous voyez, on glisse vers un déisme qui n'est pas un christianisme. Le christianisme, c'est le Christ est ressuscité, nous ressusciterons aussi, corps et âme. À la fin des temps, les corps ressusciteront. C'est après le jugement particulier, le Seigneur ressuscitera les corps. Et il faut tenir que pour un être humain qui va au ciel, la séparation du corps et de l'âme est une sorte de perturbation, de scandale, d'atrophie. Un être humain doit être réconcilié corps et âme. Et nous aurons un corps glorieux, comme à la Vierge Marie ou comme à le Christ. Le corps glorieux, ce n'est pas le corps réanimé, à la manière de Lazare en Jean 11, où il ressuscite et après il remeurt. C'est à la manière du Christ ressuscité, vraiment, au sens fort, c'est-à-dire des propriétés différentes. C'est-à-dire, on ne pourra plus être touché par la corruption. On ne pourra plus mourir avec. On ne sera plus malade. Il n'y aura plus d'atrophie. Je ne serai pas boiteux, je ne serai pas infirme. Très intéressant. Une vraie espérance pour nous, toutes les personnes handicapées, les personnes malades, les personnes qui ont souffert dans leur corps. C'est une vraie espérance. On aura ce corps glorieux. Ce corps glorieux sera complètement unifié à notre âme. Vous voyez, il y aura une parfaite harmonie entre l'agir spirituel, intellectuel et physique. Souvent, le corps est dominateur. Il y a les pulsions, il y a les désirs. Là, il y aura une maîtrise totale, aussi bonne qu'avant le péché d'Adam et Ève. On retrouvera cette condition unifiée. Ce corps glorieux sera rayonnant. C'est ce qu'on appelle la lumière de gloire des saints. Il rayonnera selon la proportion des mérites et des gloires de chacun. Il y aura une vraie lumière. Comme le Christ en lumière, il y aura une vraie lumière. Nous aurons tous des lumières différentes parce que selon la personnalisation de nos charismes, de notre histoire et de nos mérites, il y en aura qui ont plus de lumière que d'autres. Et bien ça relève de Dieu. Pourvu que nous soyons comblés. Thérèse de Lisieux dit, évidemment, tout le monde sera heureux parce que la bouteille soit pleine ou que le verre soit plein, on est tous pleins de Dieu, on est heureux. Par contre, notre responsabilité ici-bas de faire les petits oui qui conditionnent notre oui final, c'est qu'on peut agrandir le réceptacle. Libre à nous d'agrandir le réceptacle, disent ici-bas. Et donc en travaillant le fin de Dieu et suivre sa volonté, on peut passer du stade verre à bouteille, à amphore, à cuve. Ce qu'avait dit le Seigneur à Catherine de Sienne, « Fais-toi capacité, je me ferai torrent. » Donc là, vraiment, le rayonnement de Dieu est donné, sera donné. Eh oui, c'est beau, hein. Et puis, nous aurons aussi d'autres propriétés, qui sont les propriétés que a le Christ lui-même. Le rapport au temps et à l'espace ne nous conditionnera pas. On voit que le Christ peut apparaître à plusieurs endroits. On voit que le Christ, il entre dans une pièce en passant les murs, quelque part, parce que la pièce était fermée au moment des apôtres, quand ils sont dans la salle qui est fermée. Donc on voit bien que c'est bien, pourtant un corps de chair ressuscité qui a des propriétés, que dirait l'Église, de subtilité, voilà, qui n'est plus corruptible et qui dégage de la lumière et qui est parfaitement unifié et on ne peut plus pécher. On ne péchera plus aussi. Alors c'est des nouvelles propriétés. Et en fait, c'est profondément ce qu'on doit être. C'est-à-dire, là notre personnalité est pleinement unifiée, nous serons ce pourquoi nous sommes faits. La résurrection des chairs, c'est ce pourquoi je suis fait et qui est programmé dès mon baptême. C'est fait pour ça. C'est-à-dire, en fait, Dieu prépare ce terrain en me le faisant choisir, désirer dans ma vie ici-bas, me le fait sentir un tout petit peu dans la communion avec le corps glorieux du Christ, qui est un soutien dans l'Eucharistie. Mais au moment de la mort, j'allais dire, une écorce tombe, mon corps, qui est pourtant mon corps, qui fait partie de moi, mais je vais le retrouver glorifié en son temps. Et là, je suis unifié. Donc les fins dernières, nous parlons du jugement personnel, du purgatoire, la possibilité de l'enfer, du ciel, de la vision de Dieu, où il y a une vraie communion entre les personnes. Les saints, on parle de la communion des saints, s'échangent ce qu'ils ont, comme dit Jean-Baptiste. Un homme ne peut rien s'attribuer de lui-même sauf ce qu'il a reçu du ciel, en Jean 3. On ne gardera rien pour nous, c'est la différence à l'enfer, on est retourné sur le même et on aspire, et on n'est absolument pas solidaire des autres. Là, il y a une solidarité absolue et on se réjouit des bonheurs des autres. Il n'y aura pas de jalousie. Qu'il y ait quelqu'un qui ait une petite joie ou une grande joie, les gens se réjouiront de sa joie. On ne sera pas jaloux des charismes, des joies des autres, parce qu'on est totalement détourné, c'est extraordinaire. On pensera au bien commun. C'est la fameuse communion des saints. Elle se situe à deux niveaux. Nous nous partagerons Dieu. Nous nous partagerons les choses de Dieu et l'amour de Dieu. C'est la communion du sacré, des choses sacrées, qui commence déjà ici-bas quand nous donnons la communion, quand nous partageons la parole de Dieu ou la foi, la communion des choses sacrées. Et aussi la communion de l'aide des saints, les saints qui nous préparent au ciel, qui peuvent intercéder pour nous, par leur enseignement, leur mérite, peuvent nous aider à aller au ciel. Vous voyez, quand on parle des indulgences ou des indulgences plénières, c'est quoi ? Ce n'est pas une invention commerciale de l'Église pour tracter financièrement le salut. C'est le mystère de la communion des saints. Dieu permet que ses serviteurs l'aident à la sainteté des autres. C'est notre dignité. Il aurait pu tout faire tout seul, mais il a voulu les apôtres. Il aurait pu faire tout seul, mais il aurait voulu les ministres. Il aurait pu faire tout seul, mais il a voulu les parents qui éduquent les enfants. Il aurait pu faire tout seul, mais il a voulu que les saints et les bienheureux aident ceux qui sont en chemin vers la sainteté. Et donc leur mérite, des saints et des bienheureux, peut être transféré à d'autres et être aidé. Et donc nous avons au purgatoire des gens qui vont accueillir pleinement le salut et la purification par la prière de l'Église pérégrinante et de l'Église glorieuse des saints. C'est la communion des saints, l'entraide. Et des fois, nous pouvons faire des démarches de pénitence pour avoir une indulgence pour une âme du purgatoire. Ou pour aider même dans la prière d'autres personnes. C'est la fameuse communion des saints. Vous voyez, c'est un mystère de communion à l'Église. Et même, on parle d'indulgence plénière, c'est-à-dire de permettre à une âme, les souffrances du purgatoire, d'être complètement abrogées par les mérites du Seigneur et par vraiment un don d'amour de nous-mêmes qui va faire effacer cela. Je m'arrête à nouveau sur ce qu'on appelle la souffrance du purgatoire pour vous montrer quelque chose de tout à fait juste et pour revenir sur le concept de justice et de jugement et après de parler de la miséricorde. Le concept de purgatoire implique le fait de ce qu'on appelle la peine du péché. C'est différent de la faute. Qu'est-ce que c'est que la différence ? Quand vous allez vous confesser, Dieu vous pardonne vos fautes, vous déculpabilise, vous fait rentrer à nouveau dans sa vie de grâce et dans son amour. J'allais dire, c'est comme si moi, là, vous voyez toutes ces chaises, j'y vais à la batte de baseball et je casse tout. Puis après, je me rends compte, dans un excès de colère, que j'ai fait une grave bêtise, parce que déjà, j'ai abîmé des choses, ça coûte cher, j'ai un peu, pas volé, mais j'ai cassé, je me suis mis en colère, j'ai profané un peu le lieu du Seigneur, mes frères et sœurs ne peuvent pas l'utiliser, je suis un prêtre, donc je fais un bon petit contre-témoignage, et pour le multiplier, je peux demander un pardon au Seigneur pour ça. Je suis coupable de ça. Dieu me pardonne, parce qu'il est bon. Je demande ce pardon. C'est un bon acte d'humilité. Vous voyez, les petits oui qu'il faut faire, des fois, nous descendent. Mais il me pardonne. Merci Seigneur. Il me refait vivre dans la vie de communion de grâce avec mes frères et sœurs, avec lui-même. Est-ce que l'affaire en est résolue ? Les chaises sont toujours cassées. Ça veut dire qu'en fait, les conséquences de mon péché demeurent. Même si j'ai été pardonné. Il faut réparer. Il faut réparer. C'est de la justice. Dieu ne va pas réparer comme ça. Il ne va pas, c'est fini. Non, il y a plein de choses à réparer. Et donc, il va falloir peut-être que je paye. Il va falloir que je m'excuse. Il va falloir peut-être que je répare. Selon les degrés de mon péché, ça peut être douloureux pour moi, ce qu'on appelle la peine du péché. Et en toute justice, nous aurons tous à réparer nos péchés. Ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas pardonnés, c'est qu'il faut réparer. Et au purgatoire, quelque part, on sent la peine de son péché. La charité nous dit, le Seigneur répare un certain nombre de péchés. Ce qui n'aura pas pu être réparé, peut être réparé par un acte de charité autrement. Vous voyez, une sorte de vase communicant entre le bien qui soit vainqueur du mal par le bien, nous dit l'Écriture. La charité, par exemple, je ne pourrais peut-être pas réparer toutes les chaises, mais si je donne mon aumône aux pauvres, le Seigneur le verra bien. Vous voyez, ça c'est de la justice. Et Dieu est profondément juste. Vous voyez, dans les apparitions de Sœur Faustine, qui sont reconnues par l'Église, qui vont être vraiment un modèle pour l'année prochaine dans la miséricorde, le Seigneur apparaît d'abord comme le Saint, le trois fois Saint. Je vous ai dit, on s'approche de la sainteté de Dieu que si nous-mêmes nous rentrons dans une purification, une sainteté. Dieu apparaîtra en troisième comme le miséricordieux. Mais entre-temps, il apparaît comme le juste. Non pas comme la justice tyrannique, mais comme celui qui est vrai. Vous voyez ? Parce qu'il a créé les choses en ordre et il veut l'ordre. Non pas comme un père fouettard un peu obstiné, parce que l'ordre, la justice est bonne. Elle est profondément bonne, la justice de Dieu. Elle est profondément bonne. Et nous y aspirons. Nous y aspirons tellement, c'est que vous voyez, quand des gens ont par exemple fait beaucoup de mal dans leur vie, j'en ai peut-être fait beaucoup, mais on va prendre des exemples assez marquants qui m'avaient touché, c'est ceux que par exemple qui ont fait des persécutions ou des tortures en Algérie. Vers leur fin de leur vie, sans savoir pourquoi, les gens, comme un ressort, ça ressort. Ils sont obligés de le dire ce qu'ils ont fait. Parce qu'on ne peut pas comprimer le ressort de la conscience, un jour ça sort. Parce que l'homme est fait pour le vrai. Parce qu'il est fait pour le vrai, un jour ça sort. Ça peut sortir à sa mort, mais ça sort. Et ça, cette impression du vrai, c'est parce que Dieu est profondément vrai et veut réhabiliter le vrai. Non pas pour punir, parce qu'il est vrai, parce qu'il est juste. Okay ? Donc, cette justice, elle fait partie de l'amour, parce que l'amour est vrai. Et donc, nous avons un besoin de mettre les choses en ordre, vous voyez, dans nos vies. C'est très important. Et que donc, quelque part, si nous prenons ça au sérieux, nous avons envie de réparer les conséquences du péché, et les prendre au sérieux. Voilà, donc c'est pour ça que l'âme elle-même choisit le purgatoire quand c'est nécessaire. Donc nous avons vu ce qu'était un corps glorieux, cette joie du ciel, l'enfer, le jugement personnel, mais il y a aussi le jugement final. C'est-à-dire que nous attendons, nous disons dans l'Eucharistie, pour que la montée à mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Le Seigneur est déjà venu caché une première fois dans l'incarnation et s'est manifesté publiquement. Il vient de temps en temps dans des apparitions, mais généralement il vient tout le temps, sous les aspects sacramentels du pain et du vin, à travers les chrétiens, de manière discrète. Mais un jour, il va vraiment venir dans la gloire, avec les trompettes, les anges, les saints et tout, le gros paquet, quoi. Et ça, il clôturera la création. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, il l'a créé. Il n'y a pas une fin infinie de la création, il n'y a pas un début infini. Il y a eu un moment où il n'y avait pas de création, il n'y avait pas de ciel, pas d'ange, il n'y avait pas non plus de terre, de cosmos, d'étoiles, d'atomes. Dieu a tout créé, à partir de rien. Et un jour, il clôturera cette création, il y mettra une fin. Et à cette fin, qu'il aura jugé bon, il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts, et il y en a un qui va être jugé, c'est le démon et les anges. Vous voyez, il y a une puissance de nuisance dans les anges, que Dieu permet. Que Dieu permet, c'est étonnant, Dieu n'est pas sadique, mais il le permet. D'abord parce qu'il a créé ces créatures, donc il ne va pas les détruire, et deuxièmement, il s'est rendu compte qu'il était plus fort qu'eux, enfin il s'est rendu compte qu'il le savait. Donc quelque part, même s'ils agissent pour le mal, lui, il est capable d'en tirer un bien. C'est là où vous voyez, si on peut méditer, la toute-puissance de Dieu. Dieu, même d'un mal, peut en tirer un bien. Ça veut dire que même ceux qui agissent mal, il est tellement puissant, il serait moins puissant s'il disait « Arrêtez, arrêtez, je ne vais pas y arriver ». Il dit « Faites-le, mais moi je suis plus fort que vous. » Et j'en tirerai un bien. Donc il est super puissant, Dieu, en fait. C'est intéressant, ça nous épate. Vous voyez, ça nous épate, la puissance de Dieu, en fait, quand on y réfléchit. Cette toute puissance de Dieu, un jour, définitivement, clôturera l'influence de Satan et des démons. C'est au jugement final. Il leur dira, maintenant tu n'agis plus. Maintenant tu n'agiras plus. Tu ne feras plus de nuisance. Ça, on nous retrouve ça dans le livre de l'Apocalypse et en son temps. Dieu le fera. Et ce jour-là, le retour du Christ, personne ne le sait. Personne ne le sait. Autant des premiers chrétiens qui étaient touchés par les persécutions, on pensait que ça serait demain, après-demain. Donc on a véritablement cette aspiration rapide dans les écrits pauliniens du retour du Christ. Veillez, vous ne savez pas quelle heure vient, il est proche, etc. On dit ça aussi dans l'Écriture, dans l'Évangile. Et puis avec le temps, j'avais dit, avec le temps, ça a pris beaucoup de temps. Ça s'est développé, c'est pas tout de suite. Et pourtant, il nous faut avoir faim de ce retour du Christ. Vous voyez, nous avons des vocations comme les Chartreux ou comme les Moniales de Bethléem. Qui sont de lignées des Chartreux, des Carthusiens. Et en fait, il prit la nuit, le jour, pour espérer le retour du Christ. Voilà, nous proclamons ta mort, Seigneur, nous attendons ton retour, ta venue dans la gloire. C'est qu'ils veulent ça. Parce qu'ils savent que c'est l'époux qui va revenir, comme dans l'Apocalypse, l'Esprit et l'épouse disent « Amen, viens, Seigneur Jésus ». C'est l'époux qui doit venir à l'Église, et c'est notre bonheur. Et à ce moment-là, une terre nouvelle sera créée. Dieu recréa la création, parce que le péché de l'homme a abîmé la création. Il y a des perturbations physiques qui sont des conséquences de l'orgueil, du péché, et le pape nous en parle, et de la non-considération de l'œuvre de Dieu, de l'égoïsme de l'homme, de la domination, qui ont entraîné des problèmes climatiques, économiques, etc., sur la création. Et heureusement, on n'en est que sur la Terre, parce que la Terre devient une bonne poubelle, mais le jour où on passera d'autres galaxies, ça sera notre système solaire qui sera peut-être une bonne poubelle, ça commence déjà avec les satellites. Mais plus que ça, il y a une perturbation cosmique qui est due au péché de l'homme au niveau spirituel, et oui. Et le Christ, dans sa résurrection, a commencé, nous dit l'Écriture, à tout récupérer, à tout récapituler. Mais à la résurrection des corps, au retour du Christ en gloire, les choses seront remises dans l'ordre et sanctifiées. Un nouveau ciel, une nouvelle création. Voilà. C'est quand même très fort. Voilà, et nous verrons Dieu, et à ce moment-là, nous parlerons de ce qui est la Jérusalem céleste. Voilà, la communion entre les bienheureux, etc. Je voudrais m'arrêter, maintenant j'ai parlé de la justice, sur du jugement. Vous voyez, le mot jugement, c'est pour information. Vous avez ce que j'ai dit condensé en quelques lignes dans Jean chapitre 3, verset 16 et suivant. Je voudrais que nous le lisions, et que je vous le lise, et que voilà, ça nous donne à méditer. Pour voir d'abord que c'est l'amour premier, que c'est l'amour qui veut sauver de Dieu, et qu'après l'homme peut y participer, et que la manière s'il est libre ou pas de choisir, ça risque ou pas de l'intégrer en Dieu. Et vous avez cette explication dite à la manière de saint Jean, mais qui nous parle beaucoup. On y va. Chapitre 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Ainsi tout homme qui croit en lui ne périra pas. Il a la volonté de sauver. Mais il obtiendra la vie éternelle. L'amour de Dieu premier. Et l'amour de Dieu comme absolu. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Ainsi tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde. Bien sûr, on en parle dans le credo, comme il viendra juger les vivants et les morts. Mais ce n'est pas d'abord ça. Car Dieu a envoyé le monde, son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Jean 3, 17. On continue les conséquences de cet accueil du salut de Jésus-Christ. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne veut pas croire est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au Fils unique, au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici, quand la lumière est venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. En effet, tout homme qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne lui soient reprochées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient reconnues comme des œuvres de Dieu. Je voudrais m'arrêter là, parce que vous voyez, Dieu vient sauver. Mais j'allais dire, l'homme qui n'accueille pas le salut, nous est dit dans l'Écriture, il est déjà jugé. Pourquoi ? Parce que le jugement, quelque part, dans le mauvais sens du terme, la conséquence, c'est l'exclusion de Dieu. Mais on a vu ça. Or, celui qui n'accueille pas le Sauveur, qui n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu, Dieu sauve, Jésus, Yeshua, ça veut dire ça, mais quelque part, il se juge, il s'enferme dans un jugement qui va finalement le condamner parce qu'il n'accueille pas le salut. Il est replié sur lui-même, il croit que par lui-même, il peut se sauver, et c'est faux. Et ça, c'est une vraie conséquence, ça veut dire que notre responsabilité, c'est vraiment de choisir Jésus et de suivre Jésus. Et nous voyons que ce qui fait obstacle à cela aussi, c'est nos œuvres mauvaises. C'est le peur d'avoir des reproches, le peur de ne pas reconnaître humblement ce qu'on a fait de mal. Et on le voit, et on voit, je disais, des petits oui, des petits non qui peuvent conditionner. En effet, tout homme qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne lui soient reprochées. Vous voyez, c'est difficile de se changer et puis même de reconnaître qu'on a fait mal. Tandis qu'on nous dit, mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient reconnues comme des œuvres de Dieu. Vous voyez là, tout le processus ou pas d'accueil, avec le combat que ça mène, et le risque de l'enfermement de l'homme sur lui-même. Oui. Donc, voilà, ça peut nous faire méditer sur ce qu'est les fins dernières. Ah, je vous y invite. Je terminerai par cette image. Au Moyen-Âge, et même dans l'époque plus tard, Renaissance et un peu après, on avait des tableaux où on revoit des gens qui méditent avec une flamme, etc., comme de la Tour, par exemple, Georges de la Tour, en France, qui médite avec une... On voit des flammes très belles avec une bougie, et on voit un crâne à côté. On appelle ça des vanités. Les gens, en fait, méditaient la mort. Ils disaient, bah oui, comme Shakespeare, pourquoi to be or not to be, il se posait la question de pourquoi vivre, quel est le but. Chez les franciscains, il y a même l'exercice de la bonne mort, se préparer à mourir, ou même la dévotion à Saint Joseph ou la Vierge Marie de la bonne mort, c'est le mystère de l'Assomption, la grâce de préparer à mourir. Ça me semble très important aujourd'hui que de temps en temps, chacun d'entre nous se dise où j'en suis dans ma vie, est-ce que je suis prêt si le Seigneur m'appelle demain. Je terminerai avec cette boutade. Le pape Jean-Paul II était malade un jour et des religieuses viennent le voir et disent « Saint-Père, nous inquiétons pour votre sainteté. Prenez soin de vous, quoi. » Et le pape très sérieusement dit « Oui, moi aussi, je m'inquiète de ma sainteté. » Je vous laisse.